venu sur un paquebot. Un jour de septembre, j'ai quitté l'Amérique du Nord par un temps brumeux et je suis arrivée en France avec le soleil de France dans mon cœur.
Et qu'est-ce qui vous avait décidé à quitter l'Amérique du Nord et à traverser l'Atlantique?
Eh bien, monsieur, parce que je savais par mes parents qui sont de la Martinique d'origine qu'en France, j'aurais la liberté d'esprit et de corps.
Est-ce que La Revue Nègre a été votre premier spectacle à Paris?
C'était ma toute première, monsieur. Et ça, comme vous le savez, ça a fait une révolution à Paris dans l'art nègre.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ah, ce petit accent, avouez qu'il est irrésistible. Vous vous souvenez de cette scène mémorable du film Casablanca? Elle date de 1942, mais après les attentats du 13 novembre 2015, les réseaux sociaux en firent un hymne mondial. Sous le regard impassible d'un riche américain, et pour couvrir un chant nazi, le public cosmopolite d'un nightclub marocain entonnait la Marseillaise. Et c'était le cœur des intonations étrangères qui rendait poignante cette scène patriotique. Aux grands hommes, et à quelques femmes, la patrie reconnaissante. Je pense que vous êtes au courant, le 30 novembre, Joséphine Baker, qui chercha sa vie durant à forcer les portes des théâtres, des châteaux et des palaces, fait son entrée au Panthéon. Elle dit qu'à Paris, elle était perçue comme américaine, davantage que comme noire, mais c'est peut-être un peu plus compliqué que cela. Femme, femme libre, femme noire, elle est tout à la fois. On en parle dans Histoire 2, ainsi que de la danseuse, de la chanteuse, de l'amoureuse, pourquoi bouder son plaisir ? Voltaire, qui est au Panthéon, disait « J'appelle grand homme tous ceux qui ont excellé dans l'utile ou dans l'agréable ». Reconnaissez que la première catégorie y est mieux représentée que la seconde. Joséphine Baker a joint l'utile à l'agréable et nous avec elle qui convoquons aujourd'hui sa mémoire. Je serai en compagnie de Katel Müller qui lui a consacré une magnifique vie dessinée parue chez 2017 chez Casterman. Elle sera rejointe dans la seconde partie de l'émission par notre sociétaire du jour, Pape Ndiaye. Katel Müller, bonjour.
Bonjour.
Vous dessinez des biographiques, hein, c'est ça ?
Oui.
Des vies dessinées et des vies qui sont d'autres vies que la vôtre. C'est ce que vous avez expliqué dans un entretien paru dans l'excellent magazine Cosette. Vous parlez avec votre mère, vous lui dites votre admiration pour Persépolis de Marjane Satrapi, mais vous teintez cet aveu d'une pointe de reproche. Tout le monde ne peut pas avoir la chance d'avoir des parents vivants sous la domination du Shah d'Iran puis de l'ayatollah Khomeini, et votre enfance fut heureuse.
Et oui,
et voilà.
Désolée, rien à raconter.
Et alors dans ce cas-là, votre mère vous dit quoi ?
Elle me dit que franchement, de quoi je me plains ? Je devrais plutôt remercier celles qui se sont battues, pensant peut-être à elle en premier, mais pensant aussi à toutes celles avant qui se sont battues pour qu'aujourd'hui je puisse m'exprimer, avoir ma liberté. Et c'est là que tilt, oui, est arrivée ma vocation, mais parler de ces héroïnes de l'histoire, connues ou inconnues, qui ont permis à l'histoire des femmes d'avancer et qui ont permis une liberté, un affranchissement.
Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Benoît Groult, désormais Alice Guy, la première réalisatrice de l'histoire, c'est votre dernier album.
Voilà, Alice Guy, pionnière du cinéma, en même temps que les Frères Lumière et Méliès, et qui a totalement disparu de l'histoire du cinéma, et totalement invisible. Et voilà, avec Joséli Boquet, scénariste, on travaille tous les deux à rendre visibles ces femmes qui ont finalement marqué l'histoire, mais que l'histoire n'a pas retenu en mémoire, en tout cas qui a parfois mal retenu en mémoire ces héroïnes.
Héroïne au bout du crayon, c'était le titre de la rétrospective que vous avez consacrée le musée de la bande dessinée à Bruxelles. Ben, ces héroïnes ne sont pas des victimes, ce sont des héroïnes, ce sont des persévérantes, ce sont des renversantes. Et vous assumez au fond ce retournement justement de l'histoire exemplaire?
Ah ben oui, non seulement je l'assume, mais je veux absolument le faire connaître, le développer, que nos filles aient des modèles. Parce que c'est vrai que nos livres d'histoire sont truffés de héros, de Vercingétorix à Charles de Gaulle en passant par Napoléon. En revanche, les femmes sont nettement moins nombreuses. Si on les compte, il y en a vraiment très peu. Entre Jeanne d'Arc et Marie-Antoinette, on a assez peu de modèles et puis on n'a pas tellement envie de ressembler à ces destins-là.
Donc, vous dessinez les vies des femmes qui se sont libérées et qui nous libère de ce fait. De quoi Joséphine Baker vous a libéré?
Alors, Joséphine Baker, pour moi, elle incarne tout. Elle a toutes les facettes de la libération, si on peut dire, des femmes. C'est à la fois une star glamour, à laquelle on a envie de ressembler, qui danse, qui chante, qui étincelle, qui devient connue internationalement. Et puis à la fois, c'est une humaniste militante, engagée. Donc on a aussi eu envie de lui ressembler dans cette absolution qu'elle a sur son investissement, dans son combat pour la liberté de la France d'abord, et puis dans les droits civiques, puisqu'elle voudra se battre aux côtés de Martin Luther King pour donner les mêmes droits aux Noirs qu'aux Blancs. Et elle ira dans sa vie faire une performance d'une certaine façon que nul autre n'a fait depuis, c'est-à-dire qu'elle a adopté 12 enfants de couleurs, de nationalités, de religions différentes.
Sa tribu arc-en-ciel.
Tribu arc-en-ciel qu'elle a élevée dans un château dans le Périgord, et pour prouver aux yeux du monde qu'on pouvait vivre en toute fraternité en étant si différents. Et aujourd'hui, ces enfants ont grandi ensemble et sont unis comme les doigts d'une main, et on a eu la chance de les rencontrer.
Ah oui, c'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui vous a contacté, qui vous a demandé de dessiner la vie de sa mère.
Oui, absolument, c'est Jean-Claude, le cinquième de la
Jean-Claude
fratrie.
Jean-Claude Bouillon-Becker.
Voilà, Jean-Claude Bouillon-Becker, qui est le petit blanc, petit français, et qui m'a téléphoné un jour pour me demander si j'allais pouvoir dessiner sa maman. Il avait lu mes bandes dessinées, j'avais pas tout à fait compris qui il était au départ. Et puis, parce que Bouillon, ça me disait pas grand-chose, et voilà, quand il me dit que Paul Colin a dessiné sa maman, tout à coup, tilt. Je dis, mais votre mère, c'est Joséphine Baker, mais voyons-nous dès demain matin. Et puis la rencontre a été un coup de foudre amical tout de suite. Je lui ai dit mes réserves, parce que moi depuis longtemps j'y pensais à Joséphine Baker dans mon panthéon personnel. Ce qui me posait problème, c'est que j'étais une blanche européenne, rien à voir avec cette petite noire américaine, pauvre, immigrée. Donc en quoi j'avais la possibilité, le droit de m'inscrire dans son histoire et de la révéler? Et il me répond, ma mère ne voyait pas les couleurs, elle ne voyait que le talent. Et nous, on aimerait, nous, c'est-à-dire lui et la fratrie, que ce soit vous qui la dessiniez. On aimerait que vous arriviez à faire un personnage de BD de notre maman, parce qu'il faut que les gens se souviennent d'elle et que les nouvelles générations la lisent, et on pense que la bande dessinée est le bon moyen. On aimerait que vous fassiez un personnage genre Tintin, c'est-à-dire simplifié, mais ni trop réaliste, ni trop caricatural. Et voilà, le défi était lancé.
C'est ça, il choisit aussi votre trait. Que votre trait de dessinatrice.
C'est pour ça qu'il m'a parlé de Paul Colin, qui avait tellement bien représenté Joséphine, et c'est vrai que c'est tout à fait le genre de graphisme qui me plaît et qui pourrait s'apparenter.
Puisqu'on est à la radio, faut un petit peu le décrire. Vous avez un trait qui est déjà souple, simple, sensuel, mais ici, il ondule encore davantage pour épouser justement le mouvement du corps dansant de Joséphine Baker. C'est très beau, d'ailleurs, quelques-uns de vos dessins de Joséphine Baker sont actuellement exposés au musée de Colombes. Oui. Et c'était très important pour vous de trouver, je dirais, ce mouvement graphique, cette manière déliée de rendre raison à cette intelligence du corps.
Oui, alors pour Joséphine, il y a deux choses qui sont importantes. Effectivement, ce que vous dites, c'est le mouvement du corps, trouver comment rendre le mouvement. Parce que s'il y a bien une limite à la bande dessinée, contrairement au cinéma, c'est le mouvement. Donc comment, avec le dessin, donner ce côté aérien, ce côté sauvage aussi, hein, surtout qu'au début, elle fait cette danse très animale, et avec quelques traits, rendre ça. Et après, il y a aussi arriver à rendre une époque. Et dans toutes mes bandes dessinées, je m'efforce d'ajuster mon trait de base à l'époque dans laquelle je suis. Par exemple, Olympe de Gouges, j'ai beaucoup regardé les gravures du XVIIIe siècle et j'ai adapté mon dessin en faisant du graphisme avec des croisillons qui ressemblaient beaucoup aux gravures de l'époque. Là, je me suis beaucoup inspirée de tout ce qui était expressionnisme ou ce qu'on appelait art nègre, donc des dessins beaucoup plus bruts, avec des noirs blancs très intenses. Et donc j'ai beaucoup observé tous les dessins, le graphisme de cette époque-là, le cubisme aussi, pour que la bande dessinée en soit imprégnée et donc que l'époque ressorte à travers les personnages.
Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que votre Joséphine Baker, c'est une vie dessinée, c'est un roman graphique, mais incroyablement documenté, de près de 400 pages. Alors, vous êtes un monstre à deux têtes, avez-vous dit, hein, c'est Catel et Boquet, donc l'un perd son nom propre, l'autre son prénom sur la couverture, et vous travaillez à documenter cette vie, et aussi à la repérer. Et ça m'a beaucoup intéressé. Vous allez sur les lieux et chacun de vos courts chapitres commence par, je dirais, un dessin d'architecture. Ça commence par les taudis de Saint-Louis, Missouri. Ça s'achève évidemment par différents châteaux, le château de Milans, bien sûr, en passant par voilà les cabarets, les théâtres. Mmh. Et c'est comme si, au fond, ben, elle avait voulu se créer un château en Europe, Joséphine Baker.
Mais tout à fait. Les lieux ont une importance fondamentale et nous prenons du temps, on fait une équipe de cinéma à nous deux, on part sur les traces du personnage, et en plus Joséphine, elle a traversé le monde, donc on s'est régalé à traverser le monde sur ses pas, et notamment ben, à Saint-Louis, bien sûr, où elle a grandi, et après, dans les différents pays où elle allait se produire, où il se passait des choses aussi à raconter, parce qu'il faut que ce soit romanesque, sa vie est romanesque, mais mmh. Il a fallu en choisir quelques parties les plus sensationnelles, si je puis dire. Et donc, eh bien, à Saint-Louis, où elle a grandi, une pauvre petite noire dans les taudis, eh bien, c'était très intéressant. On nous avait dit qu'on retrouverait rien, mais en réalité, on a trouvé beaucoup de choses. Déjà, on a ressenti l'ambiance là-bas. On est arrivé en plein hiver, il faisait très froid. On a vu le zoo où elle allait, les distances, l'ambiance, le brouillard. Et puis surtout, on a découvert que les quartiers pauvres sont opposés aux quartiers riches. Au milieu, il y a la gare. Oui. Et quand Joséphine était petite, elle a tout de suite quitté l'école pour aller travailler, gagner de l'argent comme elle pouvait, mais vraiment toute petite, dans les quartiers riches. Or déjà, Saint-Louis, c'est une ville, comme son nom le dit, est une ville française. Il y a des statues de Saint-Louis partout. Donc déjà, Joséphine a grandi avec cette idée du roi Saint-Louis sur son cheval. Et puis, au XIXe siècle, ce sont les Allemands qui sont dû s'installer et qui ont construit des énormes maisons avec des tourelles en pierre, avec des fenêtres, avec des ogives. Et c'est là que Joséphine allait travailler. Et pour elle, être riche, c'était posséder une maison qui ressemblait à un château, comme ça. Ce qui nous a permis de comprendre pourquoi, plus tard, quand elle sera en France, deux fois de suite, elle va s'acheter des châteaux, alors qu'elle fréquente les architectes les plus connus, les plus modernes, Le Corbusier, Loos et Miles Stevens. Et finalement, elle se fait faire des plans pour des maisons, mais elle choisira au bout du compte de s'installer dans des châteaux, dans le Vésiné, un château classique du XIXe siècle, et puis après, un château plus médiéval dans le Périgord. Et c'est en allant à Saint-Louis qu'on a compris en fait ce fantasme de la châtelaine, de la princesse. Et c'était ça le rêve de Joséphine, c'était de devenir princesse française.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Ah bah, Papa Ndiaye, vous êtes là, vous nous avez rejoint dans un entretien que vous avez consacré à l'exposition du musée d'Orsay, dont vous fûtes co-commissaire, le modèle noir. Vous parliez justement de l'intelligence politique de Joséphine Baker. J'ai tellement aimé cette expression que je voulais shipper pour le titre de cette émission. Vous ne m'en voulez pas?
Au contraire.
Alors, cette intelligence politique, c'est quoi?
Je dirais que c'est sa capacité, elle, qui était en quelque sorte programmée pour une vie des plus contraintes. Cette jeune fille née dans un monde pauvre, noir de Saint-Louis comme tant d'autres, cette capacité néanmoins à se forger une vie comme elle l'entendait, c'est-à-dire une vie de femme libre, une capacité à jouer avec des contraintes très fortes, des contraintes esthétiques par exemple, pour arriver à dire autre chose que ce qu'on voulait qu'elle dise.
Eh ben, on va en parler tout à l'heure. Ne me dis pas que tu m'adores, embrasse-moi de temps en temps. Non seulement on parle de Joséphine Baker sur France Inter, mais on l'écoute.
Embrasse-moi de temps en temps. Un mot d'amour, c'est incoloré, mais un baiser, c'est éloquent. Ne me fais pas de longs poèmes, ne parle pas de tes émois. Pour me prouver combien tu m'aimes, de temps en temps, dis, pense-moi. Du-du-du-du, du-du-du-du-du, do-do-do-do, do-do-do-do. temps en temps, rappelle-toi.
Nous parlons de l'intelligence politique de Joséphine Baker en compagnie de Katell Müller et Pape Ndiaye. Et aujourd'hui, on casse les codes. Hein. D'abord, on a entendu une chanson française en rapport avec le sujet de l'émission, de temps en temps, qu'elle chantera aux soldats français en 1940. Et puis ensuite, soyons fous, on va raconter son histoire et on va la raconter, qui plus est, par ordre chronologique. Après tout, c'est le choix du livre de Katell et Bocquet qui nous sert de guide aujourd'hui. Donc on commence, Pape Ndiaye, on commence ben voilà, le 3 juin 1906, naissance de Freda Joséphine MacDonald à Saint-Louis, Missouri. C'est quoi Saint-Louis, Missouri pour une jeune enfant noire en 1906 ?
Saint-Louis est une grosse ville industrielle à mi-chemin entre la Nouvelle-Orléans et Chicago. Sur cette grande route et sur cette grande ligne de chemin de fer que des centaines de milliers de Noirs américains ont emprunté, eux qui quittaient le Sud profond, celui de la ségrégation et de la violence, pour s'établir dans le Nord. Mmh. Certains poursuivaient jusqu'à Chicago, d'autres s'arrêtaient à mi-chemin à Saint-Louis pour travailler dans les usines agroalimentaires, par exemple. Et c'est donc là qu'elle naît, dans cette ville ségrégée, dans cette ville corsetée, mais où il y a quand même quelque chose qui émerge, c'est-à-dire une culture urbaine noire américaine autour du blues, par exemple, de la musique, mais aussi de ce monde de la petite bourgeoisie noire qui émerge, dont elle ne fait pas partie, elle qui vient d'un monde infiniment plus pauvre, qui est celui d'une mère qui danse un peu, d'un père qui chante, de ce monde saltimbanque qui vivote.
Ben on va l'écouter justement, Joséphine Baker. Voilà comment elle parlait de sa vocation musicale.
Joséphine Baker, est-ce que vous vous rappelez du moins comment s'est réveillée en vous votre vocation d'artiste ?
Oui, quand j'étais petite, je me souviens souvent que maman me donnait des fessées parce que je méditais. Eh bien, je me souviens que justement quand elle allait travailler tous les jours pour nous nourrir, elle nous laissait un petit peu d'argent, ce qu'elle avait à nous donner. Et comme j'étais l'aînée, j'étais la caissière. Et il fallait que j'achète la nourriture de mes sœurs et mon frère. Et au lieu de faire cela, je faisais le diable pendant tout le temps, toute la journée. Pendant toute la journée, j'invitais tous nos voisins et voisines chez nous, dans notre cave, pour jouer au théâtre.
Ah oui.
Alors vous voyez, ça a commencé de très jeune âge.
Ce sont les premiers chapitres de votre Joséphine Baker, Katell. Donc vous dessinez cette enfance à la fois malheureuse, misérable, mais enjouée, et cette énergie dans le jeu, dans la musique des premières années de Joséphine.
Oui, parce que Joséphine est déjà une personnalité très forte, petite, hein, elle s'oppose à sa maman, elle veut se marier très tôt, le premier gars qu'elle rencontre, elle croit se marier avec lui, mais elle se mariera un peu plus tard avec un certain Baker, justement, mais elle aura 14 ans. Hein. Et surtout, elle va dans la rue, elle joue, elle chante, elle danse, elle se fait remarquer comme ça par une troupe de saltimbanques. Voilà, Joséphine, elle a déjà cette quête de liberté et cette envie de se déployer physiquement et de déployer toute cette énergie qui va la porter ailleurs. Parce que je crois que son rêve, c'est de quitter Saint-Louis.
Donc c'est une histoire d'émancipation, par la musique, par le spectacle, par la danse, et pas n'importe quelle danse, évidemment, d'emblée.
Oui, c'est une histoire qui est celle de très nombreux Noirs américains de cette époque, avec le spectacle vivant qui leur offre des perspectives sinon d'ascension sociale, en tout cas...
Pas partout, pas dans toutes les villes.
À Saint-Louis, à Chicago, quelques années plus tard, à la Nouvelle-Orléans tout de même, qui est la ville où le jazz se déploie dans ces années-là, c'est-à-dire une musique non religieuse, mais en même temps qui s'appuie profondément sur les traditions des spirituals. La Nouvelle-Orléans, c'est la ville des fanfares, c'est la ville de la danse qui se déploie et qui migre en quelque sorte avec les Africains américains vers le nord, c'est-à-dire vers Memphis et puis Saint-Louis. Et donc, de ce point de vue-là, elle est particulièrement talentueuse, certes, mais elle fait partie de ce monde-là, qui est un monde extrêmement créatif, qui veut s'en sortir et qui, pour bonne part, va quitter Saint-Louis, en effet, en particulier pour se diriger vers Chicago, qui attire l'attention à ce moment-là.
Chicago, New York, vous décrivez ça, ce portrait de groupe qu'a-t-elle, cette vie de troupe également, bah, c'est la Revue Nègre, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, et nous les retrouvons ensuite sur le paquebot Berengaria, qui quitte le port de New York avec la troupe à son bord, arrivée à Cherbourg le 22 septembre 1925, à 8h30, là on est page 163-164 de votre livre, qu'a-t-elle ? Et voilà Cherbourg, c'est pluvieux, c'est glacial, c'est petit, c'est gris, c'est triste, c'est ça la France.
Oui, mais comme le disait Joséphine, le soleil était dans son cœur.
Voilà. Et alors là, qu'est-ce qui se passe en 1925 ?
Ben, 1925, c'est l'arrivée à Paris. Caroline Dudley l'a repérée aux États-Unis avant, dans sa troupe. Et cette Revue Nègre qu'elle monte, c'est pour aller se produire au Théâtre des Champs-Élysées. Là, on est en pleine révolution à Paris, à ce moment-là, de la culture. C'est la négrophilie, comme on appelle ça à l'époque. On s'intéresse à l'art africain, les artistes, les peintres, les écrivains. Et donc, ça correspond tout à fait à la mode de cette époque. On veut monter une scène d'acteurs, de chanteurs, de danseurs noirs. Et ça va défrayer la chronique, bien sûr.
Alors, ça ne se passe pas d'emblée bien, hein, à Papendiaï. Évidemment, on ne comprend pas forcément. On la siffle, elle pense que c'est un triomphe. En fait, il faut lui expliquer que ben, quand on siffle en France, contrairement aux États-Unis, c'est qu'on n'est pas content.
Mais d'abord, évidemment, une chose, on lui demande de danser nu.
Nu.
Et au départ, elle ne veut pas faire ça, parce qu'elle n'est pas venue en France pour se déshabiller, ça la choque tout de même. Et on va arriver à l'embobiner, et puis Paul Collin va la dessiner, va la séduire, et on va lui mettre un pagne de plumes, et puis elle va accepter de faire une danse sauvage. C'est ça qui va être le scandale.
Jean Cocteau dit de Joséphine Baker, c'est une idole de bronze, d'acier bruni, d'ironie et d'or. Et la question de l'ironie, Papendiaï, elle est importante pour comprendre au fond comment ben, elle parvient à jouer et déjouer ces stéréotypes de genre et de race dans un numéro burlesque. Comment vous pourriez le caractériser ?
Donc la Revue Nègre, à partir d'octobre 1925, c'est une série de scènes. On commence par une scène reproduisant New York avec des décors de carton-pâte, et puis ça se termine par cette fameuse danse endiablée. Joséphine Baker, dans ses mémoires, raconte qu'elle a fait un peu ce qu'elle voulait, enfin c'était quelque chose d'assez improvisé, et qui en effet fait scandale. Elle est parfaitement consciente, me semble-t-il, du caractère extrêmement stéréotypé de ce qu'on veut lui faire danser, cette femme noire exotisée, c'est-à-dire à la fois déshabillée et produisant une danse qui se veut être sauvage, qui renvoie non pas aux États-Unis, mais plutôt à un monde exotique, en fait, hein, qui rappelle des spectacles sur les belles antillaises, par exemple, que l'on connaissait quelques années auparavant. Donc une femme stéréotypée. Et donc tout son effort va être dans ce spectacle, et puis surtout par la suite, dans La Folie du jour et dans les spectacles qui suivront, de trouver ces marges par lesquelles elle va se distancier, au fond, de ce qu'on lui fait danser, avec en particulier ses mimiques, ses joues gonflées, ses yeux qui louchent, qui roulent. Mais c'est une manière qu'on appelle aujourd'hui le burlesque, qui consiste à saisir un spectacle stéréotypé, comme le striptease, par exemple, pour le retourner et en faire quelque chose de plus intéressant, de plus créatif, qui en réalité se moque gentiment des spectateurs.
C'est ça.
C'est une manière de se mettre à distance et de dire « je ne suis pas dupe ».
Et c'est son intelligence politique et la domination qu'a-t-elle change de camp. Elle devient cette femme puissante.
Oui, parce qu'elle arrive aussi à allier la grâce et l'humour, ce qui a priori ne va pas forcément ensemble. Et donc elle se désexualise de cette manière-là.
En expliquant ou en montrant aux spectateurs que ce qu'elle fait, eh bien, elle le comprend comme quelque chose qui veut dire autre chose, qui renvoie à un discours qu'elle commence à élaborer, elle qui n'a pas été à l'école, elle qui est à peine lettrée, qui lit très peu, elle n'est pas une intellectuelle. Quand elle arrive, elle a 19 ans, elle sait à peine écrire son nom, finalement. Mmh. Et puis, elle va, au fond, s'éduquer par la compagnie, par ses fréquentations, et puis aussi par cette intelligence de son corps, par cette compréhension presque instinctive qu'elle peut néanmoins trouver une forme de liberté dans un spectacle stéréotypé.
Vous racontez tout ça, Catel, vous racontez les rencontres, vous racontez voilà, Le Corbusier, Simenon, etc. Et aussi cet amour inconditionnel qu'elle va donner à la France, cette reconnaissance éternelle, en tout cas pour elle, et qui va évidemment s'exprimer en octobre 1939, lorsque un capitaine, Jacques Haptet, du deuxième bureau, eh bien, l'approche. Ben voilà, elle va effectuer des missions de renseignements dans les ambassades d'Italie et, oui, et de Japon.
C'est normal, la France l'a rendue libre quand même. Elle l'a franchie complètement, elle est devenue une star internationale en France, donc elle doit tout à la France. Et puis elle se marie, il ne faut pas l'oublier, en 1937 avec Jean Lion qui est juif. Et donc elle se retrouve dans la position de la femme noire qui n'est pas forcément bien considérée, surtout par les nazis. Et les juifs n'en parlons pas. Donc elle ressent de son fort intérieur tout ce qui est en train de se passer, et une fois de plus, son intelligence politique lui fait prendre le bon bord. Et elle va s'allier à Haptet sans discuter. Elle a d'ailleurs passé son brevet de pilote, hein. Elle devient lieutenant de l'armée de l'air par la suite, et elle va travailler pour la France libre, et elle va prendre des réels risques. Pour cela, elle va partir au Maroc notamment, où elle va passer des informations sur des partitions à l'encre sympathique, parce que sa façon de résister, c'est de continuer à être star et continuer à faire ses spectacles, de chanter, mais d'essayer d'aller dans les ambassades. Et
où elle peut rentrer partout.
Elle peut s'infiltrer en fait partout, elle connaît tous les grands de ce monde, et donc elle peut obtenir, l'air de rien, des informations qu'elle va faire passer par ses partitions, par des mots qu'elle se met dans le soutien-gorge, et, ouais, et puis dans ses voyages. Elle va fournir ça aux différents partenaires avec lesquels elle travaille.
Écoutons-la à son retour en France en 1944.
Cette voix que vous entendez, vous l'avez reconnue. C'est celle de Joséphine Baker. Elle est près de moi, souriante, très simple, comme vous la connaissiez. Seulement, elle est en uniforme. Y a-t-il longtemps que vous portez cet uniforme ?
Oh, mais vous savez, je suis engagée depuis le début de la guerre.
Parlez-nous de votre retour en France.
Le temps était gris, il pleuvait, la mer était mauvaise, et je suis restée longtemps rade, comme lorsque je suis arrivée pour la première fois. Mes yeux étaient encore tout ronds d'étonnement, mais cette fois, j'avais le cœur serré.
Oui, la France se réveille d'un cauchemar, mais la trouvez-vous changée ?
Elle se demande si c'est vrai. Si réellement elle est libre. Elle est comme une jeune fille habituée au grand air qui aurait été mise dans une maison triste et noire et qui, au lieu des douces paroles de sa mère, aurait entendu des mots brutaux d'une gouvernante qui trop souvent employait le fouet. Alors, quand elle est libre, elle reste étourdie, muette et n'exprime rien de tout ce qu'elle a voulu dire pendant ces 4 ans de tristesse. Voilà la France que j'ai retrouvée.
Pape Ndiaye.
Elle a toujours une vision presque romantique de la France. C'est un amour inconditionnel, comme vous disiez, même si en arrivant en 1925, elle n'avait pas l'intention, je pense, de rester en France. C'était un contrat qui devait s'achever. Et puis, en 1944, on le voit, ou même en 37, quand elle devient française par naturalisation, elle est profondément française. Elle a un attachement à De Gaulle, également, qui est extrêmement fort, qui se manifeste tout au long de sa vie, quitte à fermer les yeux aussi, disons-le, sur des réalités françaises moins roses en quelque sorte, notamment les réalités coloniales ou la guerre d'Algérie plus tard, sur laquelle elle ne s'est pas vraiment exprimée, mais elle a ce courage physique aussi pendant, oui, la guerre. Ça, c'est aussi une de ses caractéristiques. Le fait qu'elle se trompe souvent dans sa vie, elle fait beaucoup d'erreurs, elle prend des mauvais aiguillages. Mais lorsque les vraies questions se pensent, lorsque les questions cruciales pour elle comme pour les pays où elle vit et les principes des droits humains se posent, alors elle choisit juste de manière quasi instinctive.
Oui, alors justement, les droits humains, on va en parler, Pape Ndiaye, Katel. La mémoire de Joséphine Becker, on comprend qu'elle devient en France consensuelle assez rapidement. Chez les Afro-Américains, c'est une figure au fond un peu oubliée. En 1951, elle retente une tournée aux États-Unis, mais ça se passe pas si bien que ça. En revanche, évidemment, il y a la question des droits civiques, il y a cette prise de parole fameuse du 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington. On l'écoute.
Je voulais vous dire qu'il s'agit du plus beau jour de toute ma vie. Vous voir réunis aujourd'hui est un baume pour les yeux. Unis comme le poivre et le sel, comme vous devez l'être, comme j'ai toujours voulu que vous soyez et comme tous les peuples du monde l'ont toujours voulu. Vous êtes un peuple uni, enfin. Vous êtes à la veille de la victoire totale. Continuez. Vous ne pouvez pas échouer. Le monde est avec vous.
Vous dessinez ça très bien aussi, Katel. Pape Ndiaye, donc là, on est dans un moment évidemment décisif.
Où elle s'exprime juste avant Martin Luther King. En fin d'après-midi, le 28 août 63. La plupart des gens ne la connaissent pas, se demandent qui est cette femme en uniforme avec
ses médailles. Oui, c'est toujours le même uniforme. Hein.
Et c'est la seule femme qui intervient.
Et c'est la seule femme qui intervient au long de toute cette journée. Et elle parle, et vous avez remarqué dans l'extrait qu'on a entendu, où elle dit « vous ». Elle s'adresse, elle ne dit pas « nous », elle s'adresse pratiquement en tant que Française. Et d'ailleurs, dans son discours, elle parle de la France. Elle se distancie en quelque sorte du mouvement pour les droits civiques, non pas par la cause, mais par, en quelque sorte, la communauté auquel elle appartient. Elle parle pratiquement en tant que Française et elle parle de la France dans ce discours, ce qui surprend beaucoup des 250 000 spectateurs ce jour-là.
Katel, qu'est-ce qui vous touche le plus ? Au fond, c'est cet épisode-là, dans les mille vies de Joséphine Becker.
Mais celui-ci est crucial, c'est vrai. Et en plus, elle a une façon très poétique toujours de dire les choses, et est tellement vraie. Mais peut-être que ce qui me touche le plus, c'est cette même chose qu'elle dit, qu'elle met en pratique après. Quand elle va faire l'expérience avec Joe Bouillon, avec lequel elle se marie un peu plus tard, d'adopter 12 enfants de religions, de couleurs et de pays différents. Et elle va mettre toute cette fratrie, la tribu arc-en-ciel, ensemble, qu'elle va élever dans le château des Milan, dans le Périgord. Ça, c'est incroyable.
Oui. Mais vous savez ce qu'on a fait, je vais vous dire, très tranquillement. On a parlé d'intersectionnalité. Tout simplement parce que c'est une femme qui est noire, qui est libre, qui est française, et tantôt elle se dit plutôt noire, plutôt femme, plutôt libre, plutôt française, plutôt américaine. Elle n'est pas victime, elle joue de tout ça, elle retourne la domination. Et on n'a pas aujourd'hui, Pape Ndiaye, à décider si c'est plutôt la femme libre qui rentre au Panthéon ou la femme noire. C'était tout ça à la fois ou différemment selon les moments.
C'est tout cela à la fois. J'ajouterais aussi une femme libre sexuellement, qui aime les femmes et les hommes d'une manière très très libre, ce qui à l'époque était évidemment surprenant. C'est tout cela, Joséphine Becker, y compris ses dimensions d'elle-même, de sa personnalité qu'on a du mal à saisir politiquement. Son attachement à De Gaulle, en même temps que ses visites à Cuba dans les années 60. Tout cela n'est pas facile à tenir ensemble, mais s'il y a bien quelque chose qui la caractérise, c'est ce désir irrépressible dès sa plus petite enfance de liberté, d'être une femme libre à qui on ne dicte rien.
Merci Katel, merci Pape Ndiaye. Vous voyez, sur ces sujets-là, on peut se détendre, on peut même danser.
Oh, cette musique! Mais comment pouvez-vous résister? Mais dansez, voyons. Vous savez bien comme l'autre soir. Dansez! Et dansez donc, voyons!
Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Alexandre Chenet. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter, à la page de notre émission. Vous retrouverez aussi Joséphine Baker dans les programmes de France Inter entre 15h et 17h dans le grand atelier de Vincent Josse et entre 21h et 22h dans Autant en emporte l'histoire de Stéphanie Duncan. La semaine prochaine, nous parlerons d'une nouvelle histoire de la Shoah avec les historiens Alexandre Bande et Audrey Kichelewski. Bon dimanche sur France Inter.